en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce la Chenardière.
Eugène Labiche, un académicien amuseur public, un cycle de 4 émissions proposé et présenté par Lucrèce la Chenardière pour Canal Académie. Pour ce 4e et dernier volet de notre cycle, je suis heureuse d'accueillir Bruno Bayen, dramaturge et metteur en scène, traducteur, romancier, essayiste. Bruno Bayen, bonjour.
Bonjour.
Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir car vous êtes romancier, essayiste, comme je l'ai dit, certes, mais en ce qui concerne le théâtre, vous êtes ce qu'on peut appeler un homme de l'art complet, puisque d'abord vous traduisez, vous avez traduit Goethe, Büchner, Wedekind, Peter Handke, Fassbinder, Berfuss, entre autres. Et parmi vos nombreuses mises en scène, vous avez monté certaines de vos propres pièces. On se souvient de « Faut-il choisir ? Faut-il rêver ?» de Schliemann, épisodes ignorés. C'était au Théâtre National de Chaillot, alors dirigé par Antoine Vitez. Récemment, Jean-Pierre Vincent a mis en scène votre pièce. Peut-être c'est la dernière que vous avez écrite d'ailleurs. Oui. L'éclipse du 11 août pour le Théâtre National de la Colline et le Théâtre National de Marseille.
Et de Lille, oui.
Et de Lille. Votre parcours théâtral ne vous porte pas, a priori, vers le vaudeville. Et pourtant, vous avez été le metteur en scène pour la Comédie Française d'Eugène Labiche avec un chapeau de paille d'Italie. Ça remonte à quelques années, c'était en 1986. Mais comment en êtes-vous arrivé à ce projet, Bruno Bayen ?
Alors, le Jean-Pierre Vincent, qui était alors administrateur de la Comédie Française, m'avait invité à faire un spectacle. Et à l'origine, ce devait être une pièce de Marguerite Duras. Ça devait être « Détruire, dit-elle », qui n'aurait pas été donnée à la salle Richelieu, mais dans un autre théâtre. Je ne sais pas pourquoi, assez vite, ça n'était pas possible, non pas de mon fait, mais du fait, je ne sais pas si c'était une question de droit ou d'acteur, enfin ça ne pouvait pas se faire. Et donc Jean-Pierre Vincent m'a demandé de réfléchir à un autre projet pour la salle Richelieu. Comme vous savez, la salle Richelieu est un lieu extrêmement impressionnant. Non pas seulement pour tout ce qui l'entoure et ce que représente l'institution Comédie Française, mais même architecturalement, autant la salle de l'Odéon est, il me semble, une sorte de merveille du théâtre italien pour ceux qui y travaillent, autant la salle Richelieu est contraignante d'un côté, c'est une belle salle, mais c'est en même temps un ascenseur. Donc je réfléchissais à un spectacle pour la salle Richelieu et j'ai eu l'idée de faire le premier spectacle que j'y avais vu quand j'avais 7 ans. Donc, la Comédie Française avait monté le chapeau de paille d'Italie, on l'avait introduit au répertoire
en 1938,
donc en invitant Gaston Batty à mettre cette pièce en scène. Et 20 ans plus tard, cette pièce, dans la même mise en scène, était toujours au répertoire. Je me souvenais très bien des acteurs qui avaient joué dans cette pièce. Bon, c'était Louis Seignet qui faisait le beau-père, oui. Jacques Charon qui faisait le rôle principal, Jean-Paul Roussillon jouait le cousin. Je peux même vous dire que sur la photo des programmes, c'était toutes des photos hardcore.
Oui.
On voyait, enfin, suprême provocation pour ce jeune homme qui était alors Jean-Paul Roussillon, sur la photo du programme de la Comédie Française, il fumait. Il était en train d'allumer une cigarette.
Ne serait plus possible aujourd'hui.
Ça ne serait plus possible, mais à l'époque, c'était déjà provocant. Bon, il y avait Georges Chamarat, il y avait les grandes sociétaires, Lise Delamare, Yvonne Godot. Enfin, je me souvenais quand même un peu de tout ça. Et comme ça n'avait plus été remonté depuis, je me suis dit, tiens, je vais faire la première pièce que j'ai vue là. Hein, et je voulais aussi que jouent des acteurs que j'avais vus dans mon enfance, même s'il n'avait pas joué dans cette production, c'est-à-dire Denis Jean, qui avait joué dans l'une des reprises, puisque c'était une production qui a duré 20 ans, la production de Gaston Batty, qui avait déjà joué très jeune le rôle qu'elle a joué en 1986, c'est-à-dire la baronne. Elle avait joué en 1947, la baronne, très jeune, donc elle l'a rejouée. Et ça a été son dernier rôle à la Comédie française. Bon, Catherine Samy, que j'avais vu souvent enfant, qui ne joue pas non plus, dans la production de Batty. Michel Aumont, voilà pour les trois essentiels, que, disons, qui avaient été... voilà. Et cette pièce, elle est... c'est un rêve, elle est en ça très différente des pièces dites... social de la biche. Et c'est cette course rêve ou ce rêve course qui m'avait que je trouvais assez excitant à faire à la Comédie française, pensant que qu'il y avait beaucoup de rôles pour ces acteurs-là, qu'ils savent très bien le faire. Mais même si je prenais certains partis contraires au fond de la production précédente, normal, puisque bon, le beau-père d'un encours était joué par Louis Seignier dans la... traditionnellement, c'est-à-dire un beau-père un peu rond. Bon, et j'avais pris Michel Aumont, qui n'était plus ce grand jeune homme maigre qu'il avait été, mais enfin, qui est fondamentalement un acteur maigre. Voilà, donc il y avait aussi des contradictions par rapport à... Alors, le rôle de Fadine, pour le rôle de Fadina... J'avais demandé à ce qu'on engage quelqu'un, qui était Philippe Fretin.
Oui.
Et ce qui n'est pas allé sans problème entre et la critique, et même à l'intérieur de la maison à l'époque. Mais je trouvais que c'était une bonne idée, parce que ça donnait au personnage principal, celui qui va se marier, qui durant toute la journée... Il est obligé de s'occuper d'autre chose, puisqu'il doit retrouver son chapeau. Une innocence, une espèce de côté blanc.
Oui, par rapport au reste de la troupe.
Par rapport au reste de la troupe qui servait le projet.
Et Jean-Pierre Vincent, donc, a accepté ce chapeau de paille d'Italie.
Ben oui.
Avec plaisir, ou est-ce que vous avez dû le convaincre?
Non, il trouvait que c'était une
bonne idée.
Une bonne idée, oui.
Donc alors, vous avez monté le chapeau de paille d'Italie, en fait, à la mémoire de votre enfance.
Oui, en cherchant un spectacle pour la Comédie française et à la mémoire de mon enfance, oui. Je dois dire que ce spectacle a été difficile à faire et est arrivé à un moment très contradictoire, parce qu'il a été prévu bien avant, puisque les programmations se font assez à l'avance. Il est arrivé juste après les élections de 1986, donc qui ont ramené la droite au pouvoir, et à un moment donné où Jean-Pierre Vincent lui-même avait déjà décidé de s'en aller, et où Jean Le Poulain allait être son successeur. Donc ça a été le premier spectacle d'après les élections. Et je me souviens toujours d'une soirée où donc messieurs Léotard et De Villiers, puisque Philippe De Villiers était à la culture à l'époque, il avait été nommé secrétaire d'État à la culture. François Léotard était ministre, Philippe De Villiers était son secrétaire d'État. Et donc il y avait ces personnes, il y avait Le Poulain, il y en avait d'autres, et il y avait une sorte de semi-cabale, disons, hein, contre le spectacle. Je ne dis pas si c'était à tort ou à raison, mais enfin, les gens étaient une certaine partie de la droite, au nom d'un, peut-être de ma réputation, puis de la façon dont ils s'attendaient à la biche, leur plaisait pas. Mais il y avait en même temps dans la salle ce jour-là, de la générale, il y avait Michel Guy et Samuel Fuller. Et Michel Guy et Samuel Fuller étaient enthousiastes et les autres tout à fait contre, au fond. Avec le temps, je suis content d'avoir eu les soutiens que j'ai eus.
Alors, justement, on évoque Jean-Pierre Vincent. On pourrait évoquer aussi donc, cette génération, en fait, Jean-Pierre Vincent, Patrice Chéreau et, je crois, Georges Lavaudant. Donc, en fait, la génération de 68, on peut dire, avait mis en scène la biche à leur début. Parce que peut-être on l'oublie un peu aujourd'hui, le rire, le ludisme était intrinsèque au mouvement de mai. Et le fait que cette génération de metteurs en scène se soit tournée vers un auteur comme Labiche, n'est-ce pas finalement un prolongement de l'état d'esprit de mai 68 aussi ? Puisque vous êtes un peu un Benjamin de cette génération.
Oui, je crois que les pièces commentées Patrice Chéreau et Vincent, à l'époque, c'était... Chéreau a dû monter l'affaire de la rue de l'Oursine très, très, très tôt. Mmh. Je pense qu'il voyait comme une caricature de la bourgeoisie 19e. Enfin, je ne sais pas, puisque je n'ai pas vu le spectacle. Je n'avais pas vu le spectacle. Plus tard, donc, Vincent a monté la cagnotte. Alors, il faut dire que Peter Stein, à Schaubühne, avec une sorte de traduction adaptation de Boto Strauss, avait monté la cagnotte. Et donc, il y avait une idée d'un Labiche pré-critique sociale. Enfin, bon, ce qui dans la cagnotte est en plus vrai, puisqu'il y a des histoires d'argent, il y a des gens ruinés, ils vont en prison, etc. Il y a une construction sociale beaucoup plus grande et qui n'est pas du tout la même époque
sur que la théorie que de celle Soupeau, du chapeau. Quoi.
Ce n'est pas du tout la même époque que celle du chapeau de paille d'Italie. Non, le chapeau de paille d'Italie, je n'avais absolument pas le même souci. Je ne prenais pas du tout la biche en tant que je n'y voyais rien, qui suis lié de près ou de loin à 68. Ce que j'y voyais, c'était effectivement le rêve. Hein, après tout, c'est quand même un texte sur lequel a écrit l'un des illustres membres de la société, qui est Claude Lévi-Strauss, qui a écrit un texte sur le chapeau de Paille-Italie. C'est pas seulement un rêve, c'est comme du Hergé, au fond. Ça ressemble énormément au trésor de Rackham le Rouge. C'est-à-dire, on va chercher, on fait le tour. C'est pas le tour du monde, en l'occurrence, c'est le tour de Paris. Mais on fait le tour de Paris pour retrouver le chapeau qu'on avait chez soi, et qui était arrivé dès la deuxième scène. Bon. Alors on peut aussi dire, si on veut aller très loin, que dans la trajectoire théâtrale, ça ne serait pas si loin d'Édipe, puisqu'il découvre que c'est lui le coupable, etc., etc. Je ne dis pas du tout pour le reste de l'histoire. Mais enfin, prenons plutôt Hergé, qui me semble un très bon... Ce qu'on cherche était chez soi. Et dans cette circonstance très particulière, quoi, d'un jour de mariage, qui donne toute la fantaisie de la pièce, quoi. Mais c'est plutôt un Labiche poète. Je pense que c'est... On pense de savoir que c'est une pièce plutôt de jeunesse, quand même.
C'était ça qui vous avait intéressé?
Moi, je trouve qu'il y a une jeunesse dans le... Bon, c'est vrai que quand on lit ça, et quand on répète ça pendant plusieurs mois, tous les jours, on se dit, à la fin de la journée, on a plutôt envie de lire des textes... qui nourrirait autrement, mais...
Alors justement, parlons de la pièce un peu. Donc ce chapeau de paille d'Italie. Donc il a été le premier grand succès de Labiche et sa première comédie en cinq actes, puisqu'il n'avait écrit jusqu'à ce jour que des vaudevilles en un acte. Un chapeau de paille d'Italie, c'est un vrai, vrai succès, puisque ça a été joué environ 300 fois. Durant la saison 1851-1852 au Palais Royal. Donc cette pièce est entrée au répertoire, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1938, dans une mise en scène de Gaston Batty. Cette pièce est qualifiée de chef-d'œuvre par René Clair, qui a, dans son introduction à La Clé des Champs, c'est le seul roman qui a été publié par Labiche. Donc René Clair, dans son introduction, parle du chapeau de paille d'Italie comme le chef-d'œuvre de Labiche. Alors donc, moi, j'ai entendu tout ça, etc. Et je n'ai malheureusement jamais vu de représentation de ce texte. Je me plonge de façon enthousiaste dans la lecture et puis un peu avide. Et je dois reconnaître que cette lecture m'a laissé perplexe et même un peu un peu déçue. Pour tout dire, je ne comprends pas grand-chose, mais vous allez nous expliquer. Je ne comprends pas grand-chose alors à cette histoire de chapeau mangé par un cheval qui s'avère d'ailleurs être une jument, le jour de la noce du propriétaire de la susdite jument, et de cette noce trimballée dans tout Paris par un futur marié en quête d'un chapeau identique à celui que sa cocotte a mangé. Cocotte, c'est le nom de la jument, chapeau appartenant à une femme qui prenait le frais avec un lieutenant à l'ombre des arbres du bois de Vincennes. Enfin bref, je veux dire que cette comédie, je n'ai pas bien compris le sens de tout ça. Alors, voudriez-vous nous éclairer sur le sens et l'intérêt de cette chose ? Alors bien sûr, il y a l'idée du rêve.
Je reviens à ce que je vous dis sur la différence entre les pièces un peu plus tardives, soit des comédies qui seraient des comédies au fond un peu plus sociologiques, enfin comme La Cagnotte, pas du tout exclusivement, mais un peu, ou des comédies plus de petite demeure ou de caractère, comme Le Voyage de Monsieur Perrichon. Ceci dit, moi je ne suis absolument rien un spécialiste de la biche, à l'inverse des autres, de vos autres invités. J'ai monté le chapeau de paille d'Italie, point, c'est tout.
Oui, mais vous êtes metteur en scène.
Je connaissais un peu quand même. Je trouve que la beauté ou la poésie tient, la vraie poésie du chapeau de paille d'Italie tient, grâce à ce chapeau, à l'absence absolue de psychologie. Évidemment, c'est un petit incident ridicule, sauf que bon, comme effectivement la dame n'avait pas le droit d'aller avec cet officier, ça met en péril sa vertu, etc., etc., auprès de son mari, et puis on fait le tour de Paris grâce à ça. Mais c'est comme une espèce d'objet fantôme.
Oui,
poursuit.
C'est un couple adultère qu'on trouve dans le bois de Vincennes.
Oui, elle a un flirt avec un officier qui est assez nerveux.
Voilà.
Bon.
Alors qu'on appelle l'Africain toujours. Alors c'est dû à son... Il est appelé l'Africain,
oui,
dans la pièce.
Oui, parce que les Zouaves, c'est ça.
C'est dû à son...
Oui, oui. Bon, et de toute façon, on refait le tour des amants, puisque Fadina, le marié, va chez la modiste, qui était
une ancienne
maîtresse, etc. Puis, bon. Mais c'est plutôt cette promenade et le parcours, parce que c'est le cauchemar exemplaire d'une journée de mariage. On va se marier, et en fait, il faut sauver l'honneur d'une autre femme, dont il n'a absolument rien à faire, mais sinon il est menacé par le militaire, d'autant que le militaire est là. Et sa maîtresse reste dans l'appartement.
Dans son appartement préparé pour la jeune épousée.
Oui, voilà. C'est assez... je vous parlais d'Hergé, mais celui qui donne le chapeau de paille, donc, qui est l'oncle, est comme tournesol sourd.
Oui.
Comme le professeur tournesol.
Oui.
C'est une, Et j'avais toujours pensé, c'est ça, c'était contraire aussi un peu la tradition de jeu du chapeau. Paille, où on le fait un peu jouer souvent comme un. Bon, une espèce de vieux sourd idiot, quoi.
Oui.
Je pensais qu'il devait être plutôt très élégant, en fait. Comme, simplement, il est sourd, là. Oui. Et ce serait plutôt l'oncle élégant, bon, par rapport à cette famille assez complexe, dont, quand même, il y a une autre. Dans les liens des personnages, enfin, qu'on pouvait tisser. Il y a le cousin de la mariée qui est plus amoureux de la mariée. On a l'impression que le marié, en réalité, se fiche comme d'une guigne de sa...
Oui, il parle pas beaucoup de sa
future.
Oui, il parle pas beaucoup de sa future femme, de l'amour éventuel qu'il pourrait lui porter.
Donc, simplement,
ça a l'air totalement accessoire. Oui.
Il épouse la fille d'un pépiniériste. Oui. Bon, voilà, il se case. On a l'impression d'un homme qui va se caser au milieu de sa vie ou à la fin de sa jeunesse. Et que celui qui aimait la mariée, c'est le cousin. C'était un thème que j'avais pas mal développé, en fait.
Dans votre mise en scène.
En fait, c'est une pièce qui a... Je vois bien qu'à la lecture, je peux très bien comprendre que la lecture n'y ait pas une satisfaction extrême, c'est parce que c'est plutôt comme un scénario.
Oui.
Scénario et dialogue, ça. Oui, bon, oui. D'ailleurs, c'est pas, si ça a été mis au cinéma par René Clair, c'est pas tout à fait par hasard. On pourrait imaginer que Lubitsch ait fait une version du chapeau de paille d'Italie.
Donc, en fait, ce que vous avez mis en scène, en fait, c'est cette idée de mouvement et de troupe, parce que bon, il faut parler de ça, de cette noce à 8 fiacres qui tourne dans Paris, et en fait, qui est toujours à la suite du futur marié, qui lui est à la suite du chapeau, qui en fait va être chez lui. En fait, ça tourne comme ça, et donc il traîne derrière ses basques toute sa. Donc, en fait, c'est ça qu'il y a à mettre en scène, en fait, c'est ce mouvement.
Il y a un manège, une ronde. Monde, voilà. Paris, ça finit place Baudoyer, qui est la place derrière l'hôtel de ville en réalité. Mmh. Et il y avait beaucoup d'enfants dans la noce. Ils étaient une dizaine d'enfants. Et c'était cette grande noce de gens de la banlieue. Et au lieu qu'ils soient, je pense que dans l'interprétation plus traditionnelle, la noce est relativement assez ridicule. Et j'avais plutôt essayé d'axer tout le travail de la note sur la tristesse, enfin la solennité et la tristesse, quoi, de quitter que la petite fille qui va s'en aller, enfin la fiancée qui va s'en aller de Charentonneau à Paris, espèce de solennité triste. Et que ces gens-là sont tout à fait malmenés, puisqu'on les fait aller dans tous les lieux de Paris, et que le père adorerait sa fille. J'avais envie que le père aime beaucoup sa fille, enfin. Bon, il est veuf, ce père, donc sa fille est très, très importante pour lui. C'est un matériau formidable pour inventer. Bon, la critique qu'on a faite au spectacle, c'était que c'était des choses qui étaient un peu à côté, qui, justement, je ne me satisfaisais pas seulement du mouvement propre de cette quête du chapeau. Mais je trouve qu'au contraire, c'était ce que la pièce permet. C'était ça qui m'intéressait beaucoup là-dedans.
Je souhaiterais, si vous le voulez bien, Bruno Bayen, que nous entrions maintenant dans le théâtre même, c'est-à-dire dans le sein des saints, je veux dire dans la salle de répétition, et par là même dans le vif du travail théâtral. Donc vous arrivez au théâtre, d'ailleurs en fait ce n'est pas exact, les répétitions n'ont sans doute pas lieu à la salle Richelieu.
Non, elles avaient lieu à l'époque essentiellement au théâtre Récamier, que je crois la Comédie française n'a plus comme salle de répétition. Et puis ensuite, salle Maurice Escande, qui est une salle de répétition à l'intérieur de la Comédie française.
Oui. Alors vous arrivez donc pour la première journée de répétition. Et alors là, j'imagine un peu le metteur en scène ce jour-là, un peu comme un général en chef entouré par son état-major avant la bataille. Donc comment ça se passe alors ce premier jour? Vous aviez déjà rencontré les comédiens?
Non, j'avais rencontré bien sûr tous les comédiens. Donc certains avaient été engagés. Donc Philippe Fretin qui jouait Fadina. Et aussi l'actuel administrateur de la Comédie française, Muriel Mayette. Qui jouait à l'époque dans la Misanthrope, dans la mise en scène d'André Engel. Et à qui j'avais proposé de rentrer à la Comédie française à cette occasion, parce qu'il manquait une fille pour un très petit rôle, qui était celui de Virginie. Et puis les autres comédiens de la troupe, je les avais rencontrés. Donc vous savez que à la Comédie française, les choses se passent de la manière suivante. Certains ne sont pas libres, même certains que vous pouvez désirés ne sont pas libres en fonction de la programmation. Et aussi, les comédiens peuvent ne pas avoir envie d'un rôle qu'on leur propose. Ça avait été le cas d'ailleurs de Jacques Serres, qui était un comédien français, et que j'avais vu justement jouer un rôle qui est un rôle, un assez joli rôle, mais qui n'a que deux scènes, au troisième acte, qui est Achille de Rosalba. Il ne voulait pas rejouer ce rôle, par exemple. Donc, quand vous dites le premier jour, quand vous parlez du premier jour de répétition, ce n'est pas le premier jour de répétition qui est le plus inquiétant. Le premier jour de répétition, on lit. Le vrai.
On est autour de la table.
Oui, je n'aime pas rester longtemps autour de la table. Enfin, il faut bien commencer par lire une fois, pour que aussi simplement les gens fassent connaissance, puisque tous ne se connaissent pas, enfin, dans le jour où il y avait des personnes extérieures aux Français. Il y en avait que je connaissais d'avant, puisque, et c'était à l'époque où Roland Amstutz avait été engagé aux Français comme sociétaire, et je l'avais demandé de jouer Beaupertuis. Il était pensionnaire aux Français. Et puis, mais le vrai premier jour à la Comédie Française, c'est le premier jour où vous êtes salle Richelieu, puisque je ne sais pas ce qu'il en est maintenant exactement, si les choses ont un peu changé. Enfin, il y a un nombre de services, c'est-à-dire de 4 heures, assez limité. Quand vous avez 5 décors, puisque c'était le cas, et qui posaient des problèmes de changement assez grands, ça, c'est extrêmement tendu. Au deuxième acte, donc, on est chez... pièce, c'est chez la modiste.
Oui.
Donc, où Fadina...
Que la noce prend pour la mairie.
Voilà, après, que Fadina arrive à leur faire prendre pour la mairie. Oui. Et donc, au lieu que toute la scène représente le salon de la modiste, on avait décidé avec le décorateur Michel Milcan que ce serait une rue, vers une rue, avec un grand escalier comme dans Paris, et qu'il y aurait une seulement une petite partie de la scène qui sera réservée à la modiste, ce qui fait que dans le salon, dans le magasin de la modiste, la boutique, la noce serait extrêmement serrée.
Serrée.
Donc, comme la noce était très nombreuse, enfin, ça faisait tout, vraiment bien 20 personnes, je me souviens qu'on s'était trompé dans le sens d'ouverture de la porte de la modiste, ce qui rendait l'entrée de la noce beaucoup plus compliquée. Et ça avait fait, ça avait causé une espèce de un certain nombre de réflexions assez venimeuses, alors que c'était une petite erreur. Il est vrai qu'on aurait pu y penser, mais enfin bon, on avait tout oublié cela. On s'était trompé de sens entre le à gauche tirant, à droite poussant, etc. Oui. Et par exemple, bon, ce genre d'incident freine longuement la répétition. Après, ensuite, la difficulté, quand on monte une pièce comme ça, dans un cadre comme celui-ci, c'est qu'effectivement, comme il y a beaucoup de monde sur scène, tout le temps.
Oui, tout le temps. Oui, oui.
Ben, presque tout le temps. Oui. Il est difficile qu'il n'y a pas une dispersion des acteurs, puisqu'on doit parler à l'un, puis à l'autre, etc., etc. Voilà, ce genre de
mais
de
les acteurs du français sont des acteurs disciplinés.
Ça dépend desquels. Ils sont disciplinés, mais ils ne sont pas toujours de la meilleure volonté. Ils n'étaient pas.
Oui.
Non, mais par ailleurs, il y a des gens merveilleux, absolument merveilleux. Et en plus, je pense qu'une... une grande partie de l'art de la Comédie française vient et se prolonge et traverse les époques à travers les femmes, les actrices. Parce qu'il y a plus que chez les acteurs une espèce de dévouement quasi religieux que j'ai retrouvé chez des personnes comme... Denise Jans ou Catherine Samy, une espèce de quelque chose qui est de l'ordre de, on est du clergé régulier, par rapport au théâtre.
Donc ils sont très scrupuleuses par rapport à leur métier.
Qui ont un grand art, et un grand art aussi des exigences et contraintes de cette maison, qu'il faut reprendre des rôles à toute allure, changer, etc., etc. Et là, il y a des moments de...
Et vous avez remarqué donc une différence de comportement entre les comédiens et les comédiennes.
Je ne ferai pas cette généralité. Oui. Je dis que ce qu'il y a de plus haut dans l'art des comédiens français, je l'ai mieux vu de manière plus aiguë chez des femmes. Je ne veux pas dire il y a des acteurs du français merveilleux. Et je ne ferai pas une généralité sur les hommes et les femmes. Mmh. Dans le cas de ce que j'ai fait, voilà, je l'ai vu à son sommet chez des femmes. Et je donne l'explication qui m'est apparue à ce moment-là.
Donc voilà, alors le travail de répétition, vous n'avez rien à ajouter sur ce travail, ça, vous avez répété ça, alors combien de temps vous avez eu assez de temps?
Je pense qu'on a dû répéter. Et deux mois, non, ce qui est... Parce que c'est le chapeau de paille d'Italie, à la limite, en plus, il y avait un orchestre.
Oui.
Donc, Jean-Marie Seignat avait fait la musique, il y avait un orchestre. Et à des moments, vous y avez quand même 60, plus de 60 personnes qui étaient là. Donc, ça ressemble un peu, à un moment donné, à un travail d'opéra, de proche de l'opéra. Ce qui est, bon, contraignant, enfin, ce qui crée une pression... grande, bon, il faut prévoir un certain nombre de choses. On avait décidé pour la modiste qu'il y aurait une tête, vous savez, comme une tête.
Oui. Une tête à chapeau.
Et donc, on avait engagé une figurante, enfin, pour ce petit rôle, parce qu'elle rejouait aussi un rôle dans l'acte suivant chez la baronne, chez les invités de la baronne, parmi les invités de la baronne. Une fille qui devait se tenir comme une tête et qui, juste à un moment donné, se tournait vers le cousin de la mariée et lui faisait un clin d'œil. C'est-à-dire, il y a dans le... La responsabilité est une matrice à surréalisme. Ça, je crois que c'était... Ça,
oui,
ça
je pense que ça aurait plu à la biche, d'ailleurs.
me plaisait beaucoup. De même que, bon, dans les rues de Paris, dans le cinquième acte, on avait mis des souris, des choses... la saleté de Paris, c'était des souris mécaniques. Et tout le cinquième acte, j'avais vraiment essayé de les faire jouer ainsi. C'est-à-dire que le cinquième acte est, pour la noce, une tragédie. Mais pas du tout de ne pas la parodier. C'est même allant le plus possible en réfrénant le texte, en réfrénant les gags, les gags évidents, de jouer le désespoir de la noce, ce qui rendait la chose plus pathétique et mouvante. Pour que ce soit un rêve, il faut que ce ne soit pas seulement
un beau rêve, il faut que ce soit aussi un peu un cauchemar.
Oui, un vrai cauchemar, une émotion. Et donc, j'avais même... par rapport au rythme qu'on s'imagine, c'est-à-dire la côté folle course.
Oui, essayer de la freiner.
Dans le cas du cinéma, complètement freiné. Donc on voyait la façade de la maison, seulement d'un côté, à court, c'est en oblique. Et ils étaient assis devant la porte, sur les trois marches, toute la noce, et dans la déréliction... dans l'extrême déréliction. On pouvait travailler sur... bien sûr, on peut travailler sur l'émotion. Ça dépend des...
Moments. Elle peut, oui, effectivement, elle peut être lue comme effectivement le cauchemar que le jeune homme qui doit se marier le lendemain va faire. Rien qui marche et on n'arrive pas à se marier. L'acteur qui rêve la veille de jouer, qui ne sait pas son texte, ou de l'écolier qui ne trouve pas son cartable. Enfin, c'est ce genre de cauchemar qu'on fait avant le jour J.
Il y a ça, mais l'écriture de la pièce, de la pièce fait que ce personnage étant assez transparent, n'ayant pas beaucoup de caractère psychologique, étant emporté dans son action.
De Fadinard, le jeune marié. Jeune marié qui n'est pas encore marié.
N'ayant pas non plus un immense amour, ne trahissant pas non plus un immense amour pour sa fiancée, c'est un cauchemar pour tous, parce que c'est un cauchemar pour la noce, pour le beau-père.
Oui.
Oui. Alors sa fille, c'est un cauchemar. Mmh. Pour la fille un peu, pour le cousin, c'est aussi un cauchemar. C'est celui qui finalement vient à la noce et dit qu'il avait raison puisque la noce se déroule mal, que tout ce qu'il a prévu. Et puis les mariages ont toujours, très souvent, les mariages allient le pathétique et le grotesque.
Je vois que vous avez une haute idée de cette cérémonie. Justement, vous avez fait aussi allusion donc à Jean-Marie Seigna qui avait composé la musique. Alors comment vous aviez, parce que bon, il faut dire que dans la tradition du vaudeville, il y a donc des chansons à l'époque de la Biche. Donc le texte de ces chansons est écrit par l'auteur, ici par la Biche. Mais il était chanté sur des airs connus de l'époque.
Oui, mais nous, on n'avait pas gardé l'idée des airs connus.
Oui, puisque maintenant, on ne les connaît sans doute plus. Alors vous aviez traité ça autrement?
Ben, on avait...
Vous aviez tout... gardé les chansons.
Ah oui. Tout mis en chanson. On en avait même rajouté, puisque d'abord, la toute première scène était à moitié chantée. La toute première scène entre les deux valets.
Les deux domestiques.
On avait rajouté même une ou deux chansons, parce qu'il y avait, donc, comme il y avait ce problème des changements de décor.
Oui. Il fallait du temps un peu.
Oui, qui était compliqué. On avait rajouté, par exemple, développé un peu la chanson de Achille de Rosalba, On fait des fois avec des jeunes pâtres, etc. Et puis, on avait rajouté une ou deux chansons entre l'acte 4 et 5.
Qui avait été écrite par qui? Par vous?
Non, on avait développé à partir
des chansons existantes.
Des chansons existantes. Voilà. Donc, on avait fait toutes les chansons. Alors, certaines, on leur avait donné un caractère. Justement, par exemple, la chanson fameuse du Myrte, où le beau-père parle du Myrte qu'il donne à sa fille. On l'avait... accentué sur une nostalgie extrême, c'est-à-dire comme un adieu déchirant du père à sa fille.
Alors là, vous aviez été extrêmement perspicace, parce que quand on la lit, alors je voudrais faire entendre à nos auditeurs un peu de ce texte de la Biche. Donc évidemment, je me garderai bien de chanter la chanson, mais je voudrais la lire, cette fameuse chanson. Donc il faut dire, on n'a pas précisé que le beau-père Nonancourt est pépiniériste ou pipiniériste, comme dit le cousin. Et alors, ce monsieur Nonancourt, qui voue une immense affection à sa fille Hélène, en fait, se promène tout au long de cette noce, c'est-à-dire tout au long de l'avant-noce, c'est-à-dire tout au long de la pièce, avec un pot, avec une myrte en pot, parce que la myrte est censée porter bonheur à la jeune fille, à la jeune épousée, quoi, en fait. Alors, ça donne ceci. Le jour même qui te vit naître, j'empotais ce frêle arbrisseau, je le plaçais sur la fenêtre, il grandit près de ton berceau, il poussa près de ton berceau. Et lorsque ta mère nourrice te donnait à téter le soir, je lui rendais le même office au moyen de mon arrosoir. Oui, je fus sa mère nourrice au moyen de mon arrosoir. Alors voilà ce que vous avez dû mettre en scène. Alors, qu'est-ce qu'on dit à un acteur qui doit chanter une chose pareille? Qu'est-ce qu'on fait quand on est metteur en scène et grand intellectuel comme vous? Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de choses?
Michel Aumont était debout à la face jardin, sa fille avait la tête sur son épaule et les larmes aux yeux, il lui chantait ça.
Ah, les larmes aux yeux, d'accord, vous aviez...
les larmes aux yeux, véritablement.
Oui, c'est-à-dire, vous l'aviez pris, donc c'est le premier degré, en fait, de ce qui est dit, c'est qu'il la chante tendrement à sa fille, hein, c'est la didascalie,
je crois. Oui, mais c'était chanté tendrement, mais là, c'était
avec attendrissement.
C'était plus que de l'attendrissement, c'était...
C'est le moment où se jouait la séparation père-fille. Donc vous l'aviez, ça se jouait.
C'était un des rites du mariage, ça, d'ailleurs, que finalement, que le père et la fille, il y a un moment donné où se disent adieu, oui. Oui, et plus c'était plus c'était émouvant, mieux c'était. Et Michel Aumont le faisait très très bien.
Donc vous avez été satisfait de vos acteurs?
Oui, c'était pour, je vous ai dit, pour des raisons qui étaient plus liées au climat politique de l'époque et aux tensions énormes qu'il y avait à cette époque à l'intérieur de la Comédie-Française. C'était assez difficile à vivre, mais dans le travail, j'étais arrivé à plein de moments où j'étais content. Il y avait une autre, puisque je le regarde avec le temps, il est vrai que nos changements de décor étaient trop longs. On n'avait pas résolu absolument on n'avait pas vraiment résolu la question de...
Cette difficulté de changement de décor.
Du changement de décor, oui. Ce qui... drôle d'ailleurs, parce que ça, au fond, je me souvenais que, et pas seulement du chapeau de pailleté, mais d'un certain nombre de spectacles que j'avais vu à la Comédie Française, où entre les actes, finalement, il y avait 4-5 minutes, personne ne disait rien. Et en 20 ans, tout ça avait complètement déjà changé. Maintenant, n'en parlons pas maintenant. Maintenant, si vous faites un changement de 5 minutes, c'est un problème extravagant. Vous pouvez voir carrément.
Un entr'acte.
Un entr'acte. Et puis, ce qui, dans la logique du rêve, ce qui me passionnait, c'était d'arriver à ce cinquième acte absolument quasi tragique et sauvé juste à la dernière minute. Tout s'effondre dans la plus grande... Et où, finalement, cette noce, oui, ce sont des gens sincères qui ont été malmenés.
Oui. Vous aviez pris le parti, en fait...
Le parti de personne n'a tort. Ils sont pas je ne voulais pas qu'ils soient
ridicules.
Oui, ridicules.
Cette famille de pépinéristes,
oui,
de Charentonneau.
Oui, c'est ça, qu'ils soient pâles aussi, le côté, le parisien, enfin, les grands banlieusards, puisque c'est à peu près ça. Les grands banlieusards à Paris, c'est ce genre de... Non, c'était...
Vous n'aviez pas voulu prendre le point de vue supérieur du parisien?
Non, pas du tout. Non, je trouvais qu'il fallait qu'ils soient tous... dans tous leurs sentiments de mariage, quoi. En plus, bon, c'est vrai que le mariage est un thème, enfin, dans la comédie du 19e et du 20e au cinéma, est un thème récurrent, Tchekhov, qui permet d'inventer à partir de n'importe quelle réplique. C'est ça qui est intéressant dans une pièce comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des grandes... Il n'y a pas beaucoup d'arrière psychologique, mais à partir de n'importe quelle réplique... Et chacun se comporte d'un geste, d'une intonation dans la réplique, on peut imaginer une personne.
Oui, oui.
Et construire à partir de là, sans se poser des questions psychologiques. Ce que j'avais fait notamment sur ce personnage du cousin Bobin que jouait, malheureusement est mort à présent, Jean-Yves Dubois.
Oui.
De même que Beaupertuis, le mari entre guillemets cocu. N'est pas forcément absolument ridicule.
Et qui jouait le zouave alors
C'était un jeune acteur, Malifaon.
Donc vous avez parlé à plusieurs reprises de l'idée de scénario et de cinéma. Alors vous connaissez donc le film de René Clair, enfin maintenant qui est très ancien.
On est allé le voir, j'avais invité les acteurs à le voir. La cinémathèque avait organisé à l'époque.
Et vous seriez tenté de faire cette expérience au cinéma ou...
Pas le chapeau de paillette. C'est très bien au théâtre. Tous les problèmes que ça pose au théâtre, c'est plus drôle qu'au cinéma.
Drôle.
Mais... Non, c'est... en fait, d'ailleurs, le film, je trouve que ça ne m'a pas laissé un grand souvenir, le chapeau de paillette de René Clair. Le film qui est l'équivalent, dont j'ai aussi un très vague souvenir, mais de René Clair, c'est Le Million. Donc, il faut le retraduire par un autre scénario, parce que le scénario du chapeau de paillettes est quand même extrêmement théâtral. Enfin, il suffit au suspense théâtral parce qu'il n'est rien au fond. C'est un peu comme ça part du même point de vue que on dit une valise contenant des documents extrêmement importants a été volée au Pentagone. Monsieur X part à la recherche d'eux. Bon, et on peut vous emmener tout un livre sans dire ce que la valise contenait.
Oui.
On sait que c'est des documents qui viennent du Pentagone, c'est tout. Le lecteur peut très bien marcher sans qu'on lui dise le détail des dossiers volés. Oui. On peut en faire 300, avoir 356 pages passionnantes jusqu'à les retrouver. Bon, et le point de départ des chapeaux d'Italie, c'est un peu le même. C'est-à-dire l'histoire de... Bon, en plus, c'est presque invraisemblable. Enfin, l'histoire du chapeau mangé par le cheval. Bon, mais il part d'un gag, mais c'est à partir de là que... Est-ce que ça donne une pièce qui donne une grande
liberté au metteur en scène,
liberté
et aussi aux comédiens,
aux metteurs en scène et aux acteurs.
C'est voilà. Ça qui est intéressant. Oui.
Alors que.
Donc vous seriez prêt à. Est-ce que vous aimeriez remonter une pièce de la biche
Non. Ni oui ni non. Je ne sais pas.
Vous ne savez pas. Vous n'y avez jamais pensé.
Oui, je n'y ai jamais pensé.
Eh bien, c'est sur ces paroles, Bruno Bayen, je vous remercie, qu'on va terminer notre entretien. Je rappelle aux auditeurs que toutes les indications bibliographiques et toutes les publications de Bruno Bayen se trouvent sur la page de l'émission Eugène Labiche, un académicien amuseur public, réalisé par Lucien Pénaud, proposé et présenté par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie. À bientôt.